Bonjour à chacun. Je suis particulièrement heureux, c'est toujours une joie pour un serviteur de Dieu d'annoncer la parole. Mais il faut se dire aussi que, de se rappeler que ceux-là seront punis plus sévèrement s'ils sont disqualifiés. Je cours, tu cours, il, elle court, nous courons, vous courez, il, elle court. Qui n'a jamais eu le sentiment que sa vie était une course? Je crois que nous connaissons tous ce sentiment parce qu'il arrive en effet que nos vies ressemblent à une course. Parfois même du soir au matin. Je cours, tu cours, nous courons. Mais pourquoi courons-nous? Pourquoi courons-nous? Vers quoi courons-nous? Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui fait courir le monde? J'ai tapé cette question dans le moteur de recherche de mon navigateur internet et je suis tombé sur une chanson que je ne connaissais pas, de Petula Clark. Si ce n'est pas ma génération, ce n'est pas mon style musical, mais le titre de cette chanson est justement « Qu'est-ce qui fait courir le monde ?» Alors je vous propose d'en écouter un extrait, parce que les paroles collent bien avec mon propos de ce matin. Voilà, on s'arrête là. Puisqu'il faut courir, je cours aussi. Qu'est-ce qui fait courir le monde? J'aimerais ce matin transformer cette question générale et plutôt impersonnelle en question plus intime pour chacun de nous. Qu'est-ce qui me fait courir, moi, personnellement? Qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui nous fait courir? Après quoi est-ce que je cours? Qu'est-ce que je recherche quand je cours? Est-ce que je recherche quelque chose ou bien suis-je simplement pris dans le mouvement, à l'instar de la fin de la chanson de Petula Clark qui dit « Puisqu'il faut courir, je cours aussi ». Qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui vous fait courir? Il n'y a bien évidemment pas de réponse unique à cette question. Chacun apportera une réponse personnelle. Une réponse qui va traduire sa personnalité, ses goûts, sa vision du monde, sa compréhension de sa propre vie et bien d'autres choses encore. Il y a donc toutes sortes de réponses à cette question. Qu'est-ce qui me fait courir? Ceci dit, il y a des points communs entre toutes les réponses que nous pouvons apporter les uns les autres. Et nous constatons que les aspirations humaines sont souvent les mêmes, malgré les nuances que chacun apportera, malgré les spécificités de sa culture, de son éducation et de son époque. Alors, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais j'aimerais brièvement souligner les réponses les plus communes à cette question. Qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui fait courir le monde? Après quoi courent les humains? Et la première réponse que j'apporterai, c'est qu'ils courent souvent après le temps. Petite parenthèse, ça arrive en premier, mais ça ne veut pas dire que j'ai hiérarchisé mes réponses. J'ai pris comme ça, ça vient comme ça. Nous constatons aujourd'hui que l'être humain n'a jamais eu autant de temps, enfin l'être humain occidental n'a jamais eu autant de temps libre à sa disposition qu'aujourd'hui. En France, beaucoup sont passés depuis quelques années maintenant aux 35 heures. Avec des RTT, cela fait un moment que nous avons en France les 5 semaines de congés payés, des congés bonifiés, de nombreux fériés, de longs week-ends, des ponts qui parfois au mois de mai, quand ça tombe bien, s'enchaînent de manière assez agréable pour ceux qui les prennent et pour ceux qui, comme moi, profitent du temps de la retraite. Et pourtant, beaucoup dont nous sommes parfois courts après le temps. Et nous manquons si souvent de temps. Il y a tant de choses à faire. Et puis nous constatons que nous gaspillons aussi, malgré tout, notre temps. Et souvent nous agissons comme si nous pouvions rattraper le temps perdu qu'il est à jamais. Nous courons après le temps. Après quoi courent les humains? Ils courent souvent après l'argent. Bien sûr, l'argent est avant tout un moyen pour vivre, pour subvenir à ses besoins. Mais de moyen qu'il est, il peut rapidement devenir un but. Un but en soi, parfois même le but de toute une vie. Et les hommes sont souvent engagés dans une course à l'argent, à la possession de biens pour toujours, pas toujours indispensables, à l'accumulation des richesses. On travaille plus pour gagner plus. Mais pas parce qu'on en a vraiment besoin, mais peut-être qu'on fait des richesses un but en soi. Et la course à l'argent entraîne très souvent la course à la montre. Après quoi courent les humains? Ils courent aussi parfois après une carrière. Beaucoup font de la réussite professionnelle le but de leur vie. Et tout, ou presque, est alors sacrifié sur l'autel de cette réussite professionnelle. Parfois de la réussite sociale, de la reconnaissance sociale, et ainsi de plus en plus de gens rêvent de célébrité. Après quoi courent les humains? Ils courent après leurs rêves. Si de plus en plus des gens rêvent de célébrité, ce n'est pas le seul rêve qui peut motiver. Nous le savons, les rêves sont des puissants moteurs de la vie. Et beaucoup ont fait de leurs rêves, de leurs passions, des buts en soi, on vit pour réaliser son rêve ou ses rêves. On vit dans l'espoir de pouvoir un jour vivre son rêve. On vit pour sa passion ou ses passions. Après quoi courent les humains? Ils courent aussi après l'amour, bien évidemment. C'est peut-être la motivation numéro un. Pour beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre, il y a peu de motivations aussi nobles que celle-là. C'est une motivation universelle, une aspiration universelle qui a inspiré tant de poètes dans ce monde et tous les amoureux du monde entier. Après quoi courent les humains? Ils courent aussi après le plaisir. Beaucoup courent après le plaisir. Alors oui, les hédonistes ont toujours existé, hein, mais peut-être jamais autant qu'aujourd'hui. Et beaucoup sont dans une course effrénée, au plaisir dans le sens le plus large du terme. On s'amuse, on fait la fête, on s'éclate, on se divertit, on prend du bon temps, on se fait plaisir, on vit dans l'attente de pouvoir faire ces choses. On attend le week-end pour pouvoir enfin vivre, enfin profiter de la vie. Et notre société de consommation est devenue une société de consommation de plaisir et de divertissement en tout genre, dont les sensations fortes sont pour beaucoup d'humains le summum. Après quoi courent les humains? Ils courent aussi après la liberté. Il m'était impossible de ne pas inclure la liberté dans cette liste, puissant moteur s'il en est. Ou pour certains, cette recherche de la liberté est la plus élémentaire. Il suffit de regarder les flux migratoires aujourd'hui, au début de ce 21e siècle, pour constater cela. Pour d'autres, cette recherche de liberté, frères et sœurs, est plus conceptuelle, plus idéologique, plus intellectuelle. Et dans cette quête, beaucoup oublient que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Après quoi courent les humains? Je vais terminer maintenant parce que avec ce qui pouvait au moins devenir le premier, après le bonheur. Si la liberté est indispensable, dans cette liste, le bonheur aussi. Certains parleront peut-être de plus d'épanouissement personnel, de bien-être ou de réussite de la vie ou que sais-je encore. Le bonheur fait partie de ses aspirations universelles et d'une certaine manière, il englobe un peu tout ce qui a précédé tout à l'heure, avec bien des nuances, bien sûr. Les hommes courent après le bonheur. Et si vous êtes fan d'un certain Christophe Maé, vous avez certainement entendu une de ses chansons. Il est où le bonheur? Il est où? Après quoi courent les humains? Les humains courent après beaucoup de choses en réalité. Et nous courons, nous aussi, frères et sœurs, nous courons aussi certainement derrière certaines choses de ces choses. Et j'aimerais préciser ici que pour que vous me compreniez bien ou que vous me compreniez pas mal, que beaucoup de ces choses sont légitimes et bonnes. Le sommaire du catalogue que je viens de faire n'est pas un plaidoyer contre ces choses, contre certains de leurs excès, oui certainement, mais pas contre ces choses. Beaucoup sont bonnes et légitimes. Je le répète. La bonne question qu'il faut se poser ce matin n'est pas celle du quoi, mais du comment. Finalement, celle du sens que je donne à ma vie. Du sens que je donne à ma vie parce que les courses dans lesquelles je m'engage vont forcément orienter ma vie et vont en partie la définir. Petite question philosophique pour vous ce matin, vous allez creuser ça chez vous. Est-ce que c'est le sens que je donne à ma vie qui définit mes courses? Ou bien est-ce que ce sont mes courses qui définissent le sens de ma vie? À vos copies. J'aimerais maintenant m'arrêter sur une course que je n'ai pas mentionnée jusqu'ici. Une course, frères et sœurs, bien évidemment, qui nous est proposée dans la Bible. Une course assez différente de toutes celles que nous avons déclinées, que nous venons de décliner. Une course qui n'exclut pas ces choses-là, qui font partie de la vie quand elles sont à leur juste place. Mais plutôt, qui va les hiérarchiser. Qui va mettre les choses à leur place, à leur bonne place, leur donner un ordre de priorité, leur donner peut-être un autre sens, c'est-à-dire une autre direction. D'ailleurs, c'est ça le vrai sens. Et cette course dont j'aimerais vous parler, c'est la course de la vie chrétienne. Tout simplement. La Bible propose plusieurs images pour illustrer ce qu'est la vie chrétienne. Je pense ici en particulier au texte du Nouveau Testament où la vie chrétienne est comparée à une marche. Elle est parfois comparée à un combat. Puis dans plusieurs textes, elle est comparée à une course. Et la question que j'aimerais poser ici pour avancer dans notre réflexion est la suivante. Que nous apprend l'image de la course sur ce qu'est la vie chrétienne? Et avant de répondre à cette question, j'aimerais lire avec vous le texte que je propose à notre méditation. C'est un des textes où cette image de la course est appliquée à la vie chrétienne. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Je commence la lecture. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Que nous apprend l'image de la course sur ce qu'est la vie chrétienne? Elle nous apprend premièrement que la vie chrétienne, c'est un choix. Un choix qu'il faut faire. Une course nous est proposée, elle est proposée à tous les hommes. Mais il n'y a pas d'obligation à y rentrer. Il n'y a pas d'obligation à y participer, à y courir. Dieu accorde cette liberté à chacun. Liberté précieuse, mais aussi redoutable. De pouvoir entrer ou pas dans la course, dans la vie chrétienne. Que nous apprend l'image de la course ou ce qu'est la vie chrétienne. Elle nous apprend qu'après avoir décidé d'entrer dans cette course, il faut prendre le départ. Il faut prendre le départ. Toute course a un départ. C'est le point de passage obligé, obligatoire de toute course. Et si je ne fais pas partie de la course, c'est que je n'ai pas pris le départ. Et je ne peux pas me permettre de rentrer, après le départ d'une course, de rentrer à 50 km plus loin et dire que je vais faire partie de la course. Non, il faut être au départ. Et pour être au départ, il faut être prêt. Oui, ou je passe par le départ ou je ne suis pas dans la course. Avons-nous pris le départ ce matin? As-tu pris le départ ce matin? Et le départ de la course, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Nous parlons aussi de conversion. Et la nouvelle naissance, c'est justement de prendre un nouveau départ dans la vie. C'est de décider de changer de direction. C'est se détourner de son indépendance à Dieu pour se mettre au service du Christ. Pour rentrer dans la course de la vie chrétienne. Ce qui fait de vous et de moi, frères et sœurs, ce matin un chrétien, si nous le sommes, ce n'est pas d'être assis là dans l'église ce matin. Ce n'est pas non plus d'y être assis tous les dimanches de l'année. Ce n'est pas le fait d'y avoir participé aux offrandes. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir des parents chrétiens. Ce ne sont pas nos chants, nos prières, aussi belles et aussi beaux soient-ils. Ce ne sont pas non plus la connaissance biblique que je pourrais avoir, aussi excellente soit-elle. Peut-être même le plan du salut. Je peux connaître et comprendre ces choses. Cela ne fait pas de moi un chrétien, on le devient, n'est-ce pas? Ce qui fait de moi un chrétien, un enfant de Dieu, c'est d'être passé par la nouvelle naissance. C'est de m'être repenti de mes péchés et d'avoir choisi de mettre ma confiance dans le salut que Dieu m'offre par Jésus-Christ. Voilà ce qui fait de moi, de vous et de moi, un chrétien ce matin. Pour revenir à notre image, c'est d'avoir pris le départ de la course. C'est d'être entré dans la course qui nous est proposée par Dieu lui-même et de l'avoir fait là où il nous le propose. Je ne peux pas rentrer dans la course à n'importe quel moment dans ma vie. Il faut que Dieu puisse me faire un appel et que je décide de faire demi-tour pour me donner complètement à lui. Attention à ne pas brûler les étapes. À ne pas sauter les étapes. Je ne peux pas courir dans la course de la vie chrétienne à moins d'avoir pris le bon départ. Parce qu'il y a des faux départs. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris des faux départs. Jésus dira à Nicodème dans l'évangile de Jean, si quelqu'un ne naît de nouveau, nouvelle naissance donc, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors oui, il n'y a qu'un seul départ à la course de la vie chrétienne. C'est celui de la conversion, celui de la nouvelle naissance. Et nous devons tous donc faire attention aux faux départs. Nous devons donc faire attention à ne pas nous illusionner sur notre compte. Attention aux vies chrétiennes qui ne sont pas parce qu'elles n'ont pas commencé par la nouvelle naissance. Alors je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit ce matin. Mais peut-être tout simplement pour que l'un d'entre nous, ce matin, prenne conscience qu'il a pris le faux départ. Ou qu'il n'a pas pris le bon départ. Et si cela était le cas, si cela était le cas pour toi ce matin, que tu n'as pas pris le bon départ, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour prendre le bon départ aujourd'hui, ce matin. Il n'est pas trop tard pour entrer aujourd'hui dans la course que Dieu t'offre. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avons-nous pris? Ai-je pris, avez-vous pris le bon départ? Que nous apprend l'image de la vie, de la course sur la vie chrétienne, elle nous apprend que s'il y a un départ, il y a aussi une arrivée. La vie chrétienne a un but, frères et sœurs. Elle a un horizon, elle a une espérance. Et nous n'avançons pas, nous ne courons pas dans le vide au hasard, au petit bonheur, la chance. Nous courons vers ce but qui est la vie éternelle en Jésus-Christ avec Dieu. Cela veut dire que la course chrétienne, frères et sœurs, est une course orientée. Nous savons vers quoi nous allons. Nous ne courons pas au hasard ni dans le vide. Nous ne partons pas à l'aventure sans savoir où nous allons. Non, frères et sœurs, nous courons vers un but. Et l'apôtre Paul le dira précisément dans ce verset de l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nouvelle naissance. Frères et sœurs, frères, je ne pense pas que l'avoir saisi, mais une seule chose compte, pas deux, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Vers quoi courez-vous ce matin? Vers quoi je cours ce matin? Vers quoi cours-tu ce matin? La vie chrétienne est une course orientée. Nous savons vers quoi, ou plus précisément vers qui nous courons. Et quelques versets auparavant, l'apôtre Paul écrit qu'il a décidé de tout perdre avant de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. C'est le verset 8 et 9 de ce même chapitre 3 de Philippiens. Vous pouvez regarder. Pour l'apôtre Paul, et pour nous aussi bien sûr, le prix, la victoire, la récompense, c'est Christ lui-même, mais rien d'autre. C'est bien lui qui est la fée et au commencement de notre foi. Nous fixons nos yeux sur lui par la foi, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Et ce jour-là, frères et sœurs, ce jour-là, quand nous le verrons face à face, nous aurons achevé notre course. Et amen. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dans cette perspective, écrivait à Timothée, « Quant à moi... » Quant à moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La vie chrétienne est une course. Il y a un départ et il y a une arrivée. Que nous apprend l'image de la course sur la vie chrétienne, elle nous apprend aussi qu'il y a des règles. Dieu a fixé les règles de cette course. Le texte de l'Épître aux Hébreux nous éclaire à ce sujet, puisqu'il nous dit qu'il nous faut, regardez le texte, rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous enlace ou qui nous environne si facilement, pour courir, rejeter pour courir. J'étais à l'armée, j'ai jamais aimé courir avec mes 25 kilos sur le dos. La vie chrétienne n'est pas quelque chose à la carte. C'est vrai que c'est à la mode aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire son propre menu, où chacun choisit ce qui lui convient et laisse de côté les choses qui le déplaisent. Les aspects qui le dérangent, contraignants de la foi. La vie chrétienne n'est pas comme ces spiritualités contemporaines où chacun choisit ses ingrédients. C'est très dans l'air du temps en ce moment. C'est le relativisme total. Il n'y a plus de vérité absolue, mais chacun se fabrique sa propre vérité. Il n'en est pas ainsi de la vie chrétienne. Si Dieu respecte nos choix des biens dans le domaine, c'est néanmoins lui qui fixe les règles et les limites de la vie chrétienne. Il me faut donc, moi, en tant que coureur, il me faut donc, si je veux courir cette course, la courir selon les règles de celui qui les a définies. Pas selon mes règles. et pas selon les règles d'un homme. Que nous apprend l'image de la vie, de la cour sur la vie chrétienne, elle nous apprend ensuite que nous sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à courir. Nous sommes, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, environnés d'une grande nuée de témoins. Et nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, ou les uns contre les autres. Il est vrai que c'est vrai généralement, lorsqu'on participe à une course, une compétition, il faut un vainqueur. Ici, ce n'est pas le cas. C'est la limite même à l'image de la course appliquée à la vie chrétienne. Nous ne sommes pas dans une compétition, il n'y aura qu'un vainqueur. Nous sommes tous vainqueurs en Christ. Non, ici nous sommes partenaires, coéquipiers, et pour être plus évangéliques, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes ensemble, frères et sœurs, dans l'œuvre d'Argenteuil, dans cette course, pour avancer ensemble, dans la même direction, ensemble pour nous entraîner, ensemble pour nous encourager, ensemble vers ce même but. Et ça, frères et sœurs, c'est souvent exigeant, je vous l'accorde. Si vous vivez une vie d'église, vous le savez, c'est exigeant, mais c'est comme avant tout une grâce et un privilège extraordinaire que de pouvoir être dans cette course à côté des frères et sœurs. Et qui surtout nous accompagne sur ce chemin-là, dans cette course. Que nous apprend l'image de la vie chrétienne, de la course sur la vie chrétienne, elle nous apprend aussi la persévérance. Oui, elle est indispensable, cette persévérance. Ce n'est pas de tout de commencer à courir. Il faut encore aller jusqu'au bout. Il faut finir la course. Il faut courir avec persévérance. La course qui nous est proposée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit d'ailleurs ainsi, en exhortant ses lecteurs à courir avec persévérance. La course, l'épreuve qui leur est proposée. Et la course de la vie chrétienne ne peut pas se courir sans persévérance, sans endurance. Il faut y être préparé. Il faut être prêt. Il y a souvent au commencement de la vie chrétienne, nous l'avons certainement expérimenté, si nous sommes passés par la nouvelle naissance, un élan qui nous fait parfois avancer tout seul. Nous sommes comme portés. Le premier amour est souvent débordant. Et nous sommes pleins de zèle. Et nous faisons quelques bêtises, justement, tellement que nous sommes remplis de zèle. Nous faisons des bêtises. Nous aimerions que tout le monde comprenne tout ce que nous avons compris. Nous sommes pleins d'entrain. Nous manquons parfois de tact. Et il n'est pas rare que, justement, le jeune chrétien se fasse un tas d'illusions sur ce qu'est ou ce qu'est pas la vie chrétienne. Alors, l'euphorie du départ, le premier amour, il y a inévitablement une certaine routine qui s'installe, et puis inévitablement la confrontation avec tout ce qui vient questionner ma foi. Il y a un moment où le premier élan ne me porte plus. Et justement, c'est à ce moment-là, frères et sœurs, qu'il nous faut commencer à persévérer. C'est là qu'il nous faut commencer à persévérer, au risque de ralentir notre course, au risque peut-être même de nous arrêter dans notre course, comme l'ont fait certains. Notons que l'élan peut survenir un peu plus tard, ou ça dépend de l'individu, bien sûr, ça dépend du chrétien. Chacun est différent. Dans son épître aux Galates, au chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul va interpeller ses lecteurs. Oui, assez souvent, il l'a fait, et là encore, il interpelle ses lecteurs. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire ceci. Vous couriez si bien! Vous couriez si bien! Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Vos passions, vos désirs, votre promotion professionnelle, l'argent? La vie chrétienne est toute une course qui exige de la persévérance au risque de se retrouver en panne sur le bas-côté. Mais alors peut-être que vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que cette persévérance? Alors je vais simplifier et je vais vous proposer de comprendre la persévérance comme le désir, oui, le désir de continuer, la volonté de poursuivre votre course. Et c'est continuer quelles que soient les circonstances de ma vie, que ça soit facile ou difficile, que le soleil brille dans ma vie ou que je sois au milieu de la tempête. C'est continuer quand je vois les bénédictions de Dieu dans ma vie ou quand je ne les vois pas ou quand je ne les vois plus. C'est continuer quand j'ai l'impression que Dieu est absent de ma vie, que Dieu est silencieux et qu'il ne répond pas à mes prières. C'est continuer quand Dieu dit oui et puis aussi quand Dieu dit non. C'est continuer quand les portes s'ouvrent devant moi et que j'ai l'impression que le tapis rouge est déroulé. Et puis c'est continuer quand les portes se ferment. Et surtout que je ne sais plus comment continuer. C'est continuer quand Dieu dit « Ma grâce te suffit » et qu'il nous faut alors avancer avec une écharde dans la chair. C'est continuer quand nous avons envie de baisser les bras, envie d'abandonner. C'est là que nous devons persévérer. C'est continuer car ce qui fait avancer ma foi, ce n'est pas la vue. Ce n'est pas ce que je vois qui fait avancer ma foi, mais parce que j'ai les regards fixés sur Jésus. C'est continuer car nous savons en qui nous avons cru. C'est continuer car nous avons été saisis par l'amour du Christ. Et puis c'est continuer parce que nous avons les promesses de Dieu. Promesse que rien ne nous séparera de son amour. Promesse que Dieu rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en toi, en moi, en chacun de ses enfants. Il la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Promesse que c'est lui qui nous donnera le vouloir et le faire. Promesse de la présence du secours de son esprit jour après jour. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Promesse qu'il peut, par la puissance de son esprit, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et même de ce que nous pensons. Oui. Il faut de la persévérance pour courir la course de la vie chrétienne qui, croyez-moi, frères et sœurs, s'apparente à plus un marathon qu'à un sprint. Et nous devons en être conscients lorsque nous nous engageons dans cette course-là. Persévérance parce que nous vivons dans un monde qui n'a pas du tout les mêmes objectifs que nous, bien évidemment. La course de la vie chrétienne ne fait pas partie des inspirations de la plupart de nos contemporains. Et beaucoup de choses, au contraire, tendent à nous en éloigner de cette course. Persévérer aussi parce que notre propre nature pécheresse, elle aussi, cherche constamment à nous éloigner, à nous entraîner dans la direction opposée. Alors oui, il faut persévérer. Mais comment y arriver ? Je me contenterai ici simplement de souligner trois choses à partir de ce texte d'Hébreux 12, très rapidement. Le coureur qui persévère est premièrement celui qui reste concentré. Êtes-vous concentré? Sommes-nous concentrés? Suis-je concentré? Concentré sur quoi? Sur mon objectif. Les yeux fixés sur Christ à l'arrivée de cette course. C'est celui qui ne se laisse pas distraire, ni qui ne se laisse pas entraîner par les autres. Et les occasions de distraction sont nombreuses en ce monde. C'est celui qui ne se laisse pas distraire en gardant les yeux fixés sur Christ, dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Le coureur qui persévère est deuxièmement celui qui court léger, celui qui rejette tout fardeau et tout péché, qui nous enlace si facilement. Et oui, quand nous courons avec notre péché, eh bien, le péché nous alourdit. Le péché nous freine dans notre course. Le péché nous empêche d'avancer dans notre vie chrétienne. Alors, il faut nous en décharger au pied de la croix. Il faut venir au pied de la grâce, justement au trône de la grâce, pour déposer ces choses. Et là, nous repartons. Et nous courons légers, nous persévérons, les yeux fixés sur Jésus. Le coureur qui persévère, enfin, est celui qui s'appuie sur les frères et sœurs en Christ, en la foi, Il y a tous ceux qui nous ont précédés, ok, qui ne sont plus là, mais il y a des choses qui ont été écrites. Jean 20, 31, ces choses ont été écrites afin de vous servir d'exemple. L'histoire de l'Église nous rapporte tellement de richesses. Ils sont là, ils nous ont été donnés un exemple. Et puis, il y a tous ceux qui courent avec nous aujourd'hui, tous ceux qui sont là, qui courent avec nous, qui se sont engagés à nos côtés dans cette course, et avec qui nous pouvons courir, sur qui nous pouvons compter aussi quand tout va mal. Ne pensons pas que nous pouvons y arriver tout seuls. Nous avons besoin des uns des autres. Et c'est dans la sagesse de Dieu que l'Église a été voulue. Je le répète, frères et sœurs, nous avons besoin des uns des autres. Frères et sœurs, nous ne courons pas seuls. Une dernière chose qui nous apprend, que nous apprend l'image de la course appliquée à la vie chrétienne, c'est que nous ne sommes pas seuls parce que nous courons avec le Christ. En tout cas, les yeux fixés sur lui. C'est comme si nous imaginons la chose, nous courons, nous sommes en train de courir, nos yeux sont fixés sur Christ, c'est comme s'il est à côté de nous. Et il court avec nous. Il est celui qui court avec nous, devant nous, celui qui nous ouvre la voie, celui sur qui nous pouvons fixer nos regards. Il est notre guide, notre protecteur, celui qui nous rassure, celui qui nous fait éviter les ornières du chemin en pointant du doigt les dangers qui s'y trouvent pour que nous ne puissions pas y tomber. Et c'est un privilège, frères et sœurs, une grâce immense que d'avoir un tel guide dans notre course, un tel modèle, un tel compagnon de route. Alors, revenons à la question du commencement pour terminer cette réflexion. Qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui vous fait courir? Sommes-nous engagés dans la course dont nous venons de parler, celle de la vie chrétienne? Est-ce que nos yeux sont fixés sur le Christ? Si tel est le cas, alors les autres courses de la vie vont trouver leur place. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pas de panique. Si ce n'est pas le cas, alors je vous renouvelle cette question. Pourquoi ne pas y entrer aujourd'hui? Pourquoi ne pas y entrer dans cette course aujourd'hui, ce matin? Nous l'avons dit, c'est un choix que Dieu nous propose et il nous laisse libre de le faire ou pas. Ce choix, je l'ai fait, frères et sœurs, il y a maintenant plus de 30 ans. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des chutes et des victoires. Il y a eu des doutes, il y a eu des encouragements, et même encore aujourd'hui, je suis encouragé par certains à continuer. Il y a eu des joies et des peines, il y a eu des réponses et des interrogations qui demeurent. Mais jamais, jamais je n'ai regretté d'être entré dans cette course. Jamais je n'ai regretté d'être entré dans cette course, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré la maladie, malgré les perversions. Jamais je n'ai regretté d'être entré dans cette course. Seigneur, ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Oh oui, je n'ai peut-être pas tout vu, frères et sœurs, parce que je suis encore jeune et beau, comme disait le frère. Mais je sais que c'est vrai. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais, comme dit Job, que mon rédempteur est vivant. Il n'y a rien d'autre sur cette terre qui arrive à la hauteur de la grâce de Dieu. Rien. Cette grâce immense qui nous permet de devenir des enfants de Dieu et nous autorise à entrer dans la course de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui fait courir le monde? Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui me fait courir? Beaucoup de choses. Mais la question la plus importante pour nous ce matin, ce n'est pas qu'est-ce qui me fait courir ou qu'est-ce qui nous fait courir. Ou qu'est-ce qui fait courir le monde, c'est qu'est-ce qui me fait courir. C'est ça la question la plus importante. Ce n'est pas qu'est-ce qui fait courir le monde, mais qu'est-ce qui me fait courir moi, en tant que chrétien. J'ai pris le départ de la course. Qu'est-ce qui me fait courir? Pourquoi courez-vous? Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous aide chacun à bien choisir les courses dans lesquelles nous voulons bien courir. À partir de ce matin. Amen. Amen.